ce soir, je vais vous parler de notre ami Daniel Labrette, qui va proposer une 12e conférence pour la Corfu. J'ai eu la chance, en relisant sur notre site les remarquables comptes rendus de Pierre Stellen, de relever cette introduction à l'exposé du 9 mars 2013 qui portait sur Rabelais. Comme le rappelle la présidente, depuis le printemps 2006, Daniel Labrette nous présente tous les ans une conférence très appréciée. Les sujets sont toujours très divers et instructifs, animés par sa manière de compter. Et une fois de plus, la conférence a rempli son office. C'est élogieux, tu vois, Daniel. Alors, il nous a entraînés vers la Sérénissime à 3 reprises, la Sicile 2 fois, les terres italiennes devenues françaises, la Savoie et Nice. Nous avons pris le très grand large 1 fois, même 2 fois, puisque c'était une conférence en 2 parties, sur les traces de Marco Polo. Et il ne pouvait esquiver, bien sûr, la capitale. Ce fut fait avec François Rabelais. Et nous l'avons suivi entre Florence et Rome sur le porte-bagages des Pennelles. Ce fut la dernière étape de ce grand tour. C'était le 7 mars dernier. Ce soir, il va remonter. J'avais écrit « il est remonté », mais il n'a pas l'air de vouloir y aller. On va voir. Il est remonté sur l'estrade. Et il va aussi remonter dans le temps, 23 siècles, jusqu'à la Rome antique, avec pour guide Plaute, le satiriste, avec comme sous-titre « Considération sur les misères et les dépradations du peuple ».
Quel...
Ah, dépradation. Quel programme.
Je vous prie de bien vouloir éteindre mon portable. Je vous rappelle que leur usage est strictement interdit dans les salles d'examen en général et dans celle-ci en particulier. Vous ferez très attention également à bien remplir l'entête de votre copie. N'oubliez surtout pas de transcrire le numéro qui est devant vous sur le petit chevalet placé sur votre table. Je vais maintenant vous lire le sujet qui vous est proposé cet après-midi. Il s'agit de commenter une phrase. C'est tout simple. En effet, Saint Augustin a dit « Bannis les prostituées de la société et tu réduis la société au chaos par la luxure insatisfaite. Je répète, bannis les prostituées de la société et tu réduis la société au chaos par la luxure insatisfaite. Bon courage, vous avez 2 heures. Oh, pardon, me serais-je trompé d'auditoire? Ah, monsieur le président, toutes mes excuses et merci pour cette présentation dithyrambique. Je n'ai qu'à regretter que je ne battrai pas le record de Pierre. C'est vraiment un record. C'est l'Everest. Ouais, 29, c'est trop tard. Jamais je n'arriverai à l'attraper. Alors, Plaute est un... Je dirais qu'il est un repère, simplement. Je vais vous parler d'événements antérieurs, d'événements postérieurs. Bon, je le citerai quand même de temps en temps parce que on puise abondamment dans sa littérature, dans toutes ses comédies, tellement que même Molière s'en inspirera pour son avare. Voilà, donc Plaute, 254-184, pour situer avant Jésus-Christ, il est né à Sarcina. C'est une localité qu'on a failli connaître parce qu'on est allé tout près avec les gens de la Corfu. On est allé à Saint-Léo. C'est à quelques kilomètres de Saint-Léo. Et je crois même que notre président nous avait fait, après, une évocation de Saint-Léo et des comtes de Thiers qui ont fréquenté ces lieux. Alors, l'époque où vit notre ami Plaut est une époque particulièrement troublée. Donc c'est l'époque en particulier de la Deuxième Guerre punique. Ça n'est pas rien. Notre, j'allais dire ami, notre ennemi, Hannibal, est arrivé non pas jusqu'aux portes de Rome, mais il a vaincu à Trasimène, et puis il est allé jusqu'à Cannes, près de l'Adriatique, où là il a mis une pâtée monumentale aux Romains. C'est une bataille qui est étudiée dans les écoles militaires, c'est un chef-d'œuvre de stratégie. Alors les Romains ne s'en sont pas tout de suite remis, mais Hannibal, qui n'avait qu'à peu près 31 ans, je crois, à l'époque, c'est à vérifier, a peut-être eu peur de ses victoires. Et puis il a pensé que s'approcher un peu trop de Rome était vraiment risqué, il était sans doute trop loin de ses bases. Ça a été le commencement de la fin pour lui, bien que ce fût une victoire écrasante.
C'est plutôt
Hannibal. Oui, mais Hannibal est venu alors que Plaut était toujours bien en vie. À l'époque d'Hannibal, eh bien, il va y avoir aussi, un petit peu après, d'autres combats aussi homériques, si on peut le dire. Les Romains vont s'emparer de la Gaule cisalpine, c'est-à-dire, pour simplifier, le nord de l'Italie actuelle. Ils vont installer une colonie le long de l'Adriatique, du côté de Rimini, tout ça, là où Plaut, qui n'est pas né romain, là où Plaut a vécu durant son enfance. Voilà, donc c'est un moment de grande, grande agitation. Si on parle en plus de la conquête de la Grande Grèce, qui se produira quelques temps après, c'est une époque particulièrement troublée, où il y a des combats incessants. Et donc, la comédie, celle de Plaut en particulier, et les mœurs un peu dissolues vont servir d'exutoire au peuple romain. Alors le peuple, là aussi, le peuple, c'est un mot qui désigne tout et rien à la fois. Je vais essayer de vous montrer une ou deux images d'abord. Voici une image qui devrait être Plaut. Là, je suis très prudent parce que les recherches que l'on peut faire sur Google ne sont jamais très bien garanties. C'est très curieux. On n'a pas d'informations vraiment très claires de l'identité des personnages qu'on nous montre. Alors, on va croire que c'est Plaut. C'est Hannibal. C'est un bel homme, oui. Et ça, c'est la fin de la bataille de Cannes. Les soldats d'Hannibal à droite ramènent les trophées pris aux Romains à leur chef. Alors ceci est intéressant, très très simplifié, concernant le peuple romain. On connaît les patriciens, on connaît les plébéiens. Voici un peu, très simplifié, je me répète, les différences. Je vous laisse lire, les citoyens les plus fortunés, ce sont les propriétaires fonciers, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils concentrent tous les pouvoirs, politiques, économiques, judiciaires et religieux. Les plébéiens, les citoyens modestes, voire pauvres, ils doivent travailler, etc. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais tous ces gens sont libres. Et c'est là la grande différence. Sur toute la population romaine, ils composent... Oh, je vous donnerai un petit peu plus tard quelques chiffres supposés. Ils composent à peu près les trois quarts peut-être de la population romaine à cette époque, c'est-à-dire à la dernière partie de la République. Voilà. Alors, pour les contemporains de Plaut, vivre une existence de plaisir, évidemment privilège des gens les plus aisés, encore que il n'est pas d'interdit pour les plus pauvres, c'est vivre à la grecque. Per graecari. C'est là l'expression de la plus mauvaise foi. Certes, on impute tout à l'influence des Grecs. Les vêtements élégants, le raffinement des mœurs, les spectacles amollissants, et bien entendu, tout ce qui gravite autour de la galanterie.
Buvez jours et nuits, vivez à la grecque, achetez des femmes, affranchissez-les, engraissez des parasites, s'indigne un esclave vertueux d'une comédie de Plaute, évidemment. Certes, la conquête de l'Italie du Sud a permis aux habitants du Latium de se familiariser avec la vie dite facile de la Campanie, la Grande Grèce. La Grèce elle-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, sera conquise en -168. Mais les Romains n'ont pas attendu les mauvais exemples des Grecs pour se livrer à des plaisirs condamnables. Et les Romains chastes et purs sont un mythe. Et beaucoup auraient pu dire comme un certain Saint-Augustin. En effet, Saint-Augustin a dit « Bannis les prostituées de la société et tu réduis la société au chaos par la luxure insatisfaite. » Les prostituées, en effet, remplissent à Rome, comme ailleurs, une fonction de salubrité publique, protégeant femmes et enfants de naissance libre, et nul ne s'offusquera de voir les jeunes gens s'amuser à subir. Et même Caton le censeur, qui n'avait pas une réputation de rigolo, sa tête déjà n'inspire pas la gaieté, contemporain de Plaute, nous dit un jour qu'il rencontre un jeune homme qui sort d'une maison close. Bravo ! Lorsqu'un désir furieux veut gonfler leurs veines, c'est là que les jeunes gens doivent se rendre plutôt que de pilonner la femme d'autrui. Mais le lendemain, rencontrant le même jeune homme sortant du même lieu, il s'insurge. « Je ne t'ai pas dit d'habiter au Lupanar. » Tout est question de mesure. D'abord, à Rome, revenons au début. Qui était la nourrice de Romus et Romulus? N'était-elle pas une louve? Non l'animal, mais la prostituée. Lupa, en latin. Car toujours selon la tradition, Acca Larentia, la femme du berger Vostulus, qui recueille au pied du Palatin les enfants abandonnés, est une professionnelle du plaisir. Une louve, Lupa, mot évidemment à l'origine de Lupana, lieu que fréquentent les méretrix, le terme officiel utilisé à Rome, la méretrix, la gagneuse, ou encore la scortum, la peau, ou même la spurca, l'ordure, terme encore plus vulgaire. Je crois avoir une représentation d'Acca Larentia. Alors, il y en a une un peu moins chaste à gauche et puis un peu plus chaste à droite. C'est le même personnage avec Rémus et Romulus. Les Romains de l'époque classique ont aussi fait d'Acca Larentia l'héroïne d'une autre légende, située, elle, sous le règne d'Ancus Marcius. C'était le petit-fils de Numa, quatrième roi légendaire de Rome. Un jour de fête, le sacristain du temple d'Hercule invite le dieu à une partie de dés. En jeu, un repas et une prostituée que gagnera le vainqueur. C'est le décor des tripots de Subur, où les joueurs clandestins prennent des paris, que l'on voit transposé ainsi dans la Rome primitive. La partie s'engage. La statue du dieu, ne pouvant et pour cause jeter les dés, le sacristain lui apporte son aide. De la main droite, il jette les dés pour lui-même, et de la gauche, pour le dieu. Et c'est Hercule qui gagne. Fidèle à son engagement, le sacristain prépare un bon repas pour le dieu, et enferme dans le sanctuaire la courtisane la plus fameuse de Rome, Acca Larentia. Une fois la nuit passée, le dieu, pour remercier la jeune femme, lui fait rencontrer un homme riche qui l'épouse. Entré en possession d'une immense fortune à la mort de son mari, Acca Larentia la lègue au peuple romain à charge pour celui-ci de célébrer tous les ans les fêtes en son honneur, les Larentalia. Ces choses faites le 23 décembre, où un prêtre fait un sacrifice près des tombeaux supposés des deux Acca Larentia, la nourrice de Romulus et l'épouse d'Hercule. Ces légendes relatives aux deux louves donnent une curieuse représentation de la Rome originelle. Filles publiques, joueurs invétérés font entre autres partie du décor quotidien de la ville dont le nom, les anciens se plaisent à le rappeler, est l'anagramme de l'amour, Roma Amor. Et son image est beaucoup moins édifiante que certains l'auraient voulu. Rome, c'est d'abord son forum, le cœur de la ville. C'est là que se tiennent les commerces de toutes sortes, les plus honnêtes et les plus douteux. En voici le plan. Je ne sais pas si vous allez très bien voir.
Alors, on a les restes des deux basiliques, en haut et en bas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette ligne pointillée ici. C'est l'égout principal, la Cloaca Maxima, qui traverse en plein milieu le forum romain. Car le forum romain était installé sur un marécage, un ancien marécage. Et il restait à l'époque de Plaute, disons vers la fin de la République, cet égout, en partie à ciel ouvert et parfois sous terre, donc cette Cloaca Maxima et un petit lac, ça devait être plutôt une mare qu'autre chose, c'était le lac Curtius, qui se trouvait à peu près à cet endroit, entre les deux basiliques, Julia et Amélia. Et là, important, c'était le temple des castors, qui se trouvait à droite. Voilà donc à peu près le forum romain de l'époque de Plaute. Le voici maintenant, si ça veut bien aller, aujourd'hui. Alors, les restes du temple de Castor et Pollux sont à droite, en haut, les trois colonnes, si je ne me trompe pas. Et puis, à droite et à gauche, les ruines des deux basiliques. Donc, on peut penser que le lac Curtius se trouvait à peu près au milieu, ici, et un peu plus loin, devant le temple de Castor et Pollux, la Cloaca Maxima. Donc, un égout en plein milieu du forum. Vous voyez comme ça pouvait être très agréable pour le voisinage. Alors, voici ce qu'en dit l'impresario, un personnage du Charançon de Plaute. Je vais vous indiquer en quel endroit vous trouverez facilement chaque sorte d'individu. Pour vous éviter trop de travail, si vous voulez en rencontrer un. Un vicieux ou un sans vice. Un honnête ou un malhonnête. Si l'on veut trouver un parjure, il faut aller au comitium. Un menteur, un vantard, au temple de Cloacine. De riches maris dépensiers, cherchez-en près de la basilique. Là, il y aura aussi les vieilles putains hors d'âge et les intermédiaires en affaires. Les organisateurs de banquets près du marché aux poissons. En bas du forum se promènent les gens honnêtes et riches. Au milieu du forum, près du canal, rien que des matuvus. Au-dessus du lac, des hableurs, des bavards, des médisants, qui n'hésitent pas à dire pique-pendre d'autrui. À propos de rien, alors qu'eux-mêmes fourniraient largement de quoi se faire critiquer à juste titre. Près des boutiques vieilles, se trouvent ceux qui donnent et reçoivent à usure. Derrière le temple de Castor, il y a les gens à qui l'on ne doit pas accorder tout de suite sa confiance. Dans la rue Étrusque, il se trouve des individus qui font leur réclame eux-mêmes. Au Vélabre, un boulanger, un boucher, un aruspice et les revendeurs ou ceux qui fournissent la marchandise aux revendeurs. Les riches maris des pensiers, près de la Leucadienne de l'Opus. Le forum, c'est là, en un espace restreint, que toute la vie de Rome est concentrée. Travail et loisirs, peine et plaisir. Du marécage initial ne reste que le minuscule Lacursius, dont je vous ai parlé, qui disparaîtra plus tard, et la Cloaca Maxima qui traverse le lieu du nord au sud. Curie, tribune aux harangues, édifice sacré, se répartissent les lieux et donnent à l'endroit une image solennelle que les alentours démentent. Activités commerciales de tous ordres, magasins de bouche, échoppes des changeurs et des orfèvres, des parfumeurs, des bijoutiers, des barbiers, cachent d'autres activités plus clandestines. C'est l'endroit préféré des prostituées qui trouvent là le plus grand choix de clientèle. Alors ça, c'est d'abord un magasin, enfin, un personnage qui, selon les indications qui sont données là où j'ai puisé, serait un parfumeur, je crois. Je veux bien. J'en reviens au plus grand choix de clientèle. Et il y a presque plus de Lénos, marchands d'esclaves et de prostituées installés en permanence autour des comptoirs des banquiers, que de mouches en pleine canicule, s'exclame un personnage d'une comédie. Impossible de les compter, car je crois qu'il y a plus de catins que de balances de changeurs. Au nord-est du forum, on a découvert les restes archéologiques d'un lupanar. Peut-être tenue par la Leucadia Oppia, dont Plaute nous dit qu'elle ruine les époux fortunés. C'est bien la preuve qu'à Rome, le sacré et le profane cohabitent sans problème. À proximité, une petite auberge doit avoir la même destination. Rappelons enfin que le forum est traversé dans sa largeur par la Cloaca Maxima, le grand égout collectif encore à découvert à l'époque de Plaute. Égout, étal de poissons ou de viande, lourde senteur des boutiques de parfumeurs, fumée des saucisses que les cuisiniers font griller en plein air et vendent aux passants. Tous ces effluves pénétrants, souvent pestilentiels, sont indissociables de l'image du forum romain tel que nous devons nous le représenter. Il nous est également difficile d'imaginer la cohue, le vacarme qui y règne, de l'aube au coucher du soleil. Encore tolérable pour les contemporains de Plaute, ils deviendront un fléau à l'époque impériale, à quoi il faut ajouter la poussière, les encombrements dans les ruelles qui mènent à la place, les attroupements perpétuels autour des hommes politiques et de leurs cortèges de clients. C'est un tourbillon étourdissant pour les citoyens qui viennent de la campagne romaine pour satisfaire à leurs obligations électorales. Par leur naïveté rustique et leur effarement émerveillé, ils sont les proies toutes trouvées pour les escrocs qui hantent le forum. Il est en somme, ce forum, un composé étonnant. Imaginons réunis en un espace réduit, la Chambre des députés, Notre-Dame, les boîtes de nuit de Pigalle et les Halles. C'est à peu près l'image que devait présenter la place la plus fréquentée de Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Hyperactivité qui déborde forcément sur les alentours. De ce fait, il n'y a pas de délimitation nette entre beaux quartiers résidentiels et taudis. Conséquence même de la configuration géographique des lieux. À l'origine, les premiers habitants se sont installés sur l'une ou l'autre des sept collines de la ville. Alors voici un plan qui n'est pas forcément très très fidèle, mais alors on a à l'ouest Capitole, Palatin et Aventin.
Et plus à l'est, le quirinal, le viminal, l'esquilin et le caelius. Tout cela enserré dans l'enceinte servienne. La voici, cette enceinte, qui empêche à l'époque toute construction, je ne dirais pas nouvelle, mais pour l'instant, on n'a pas essayé de construire à l'extérieur. Il n'y a pas de faubourg encore à cette époque, pas de faubourg dans la Rome de cette fin de la République. Donc, dès l'instant où arrivent de nouvelles populations, elles s'entassent à l'intérieur des murs. Ce qui va poser problème, j'évoquerai ça tout à l'heure. Alors, ne reste évidemment, je viens de vous le dire, aux nouveaux arrivants, étrangers, hors la loi, petits commerçants ou autres esclaves élargis, que les dépressions où s'installer. Les anciens romains, les plus anciens et aussi les plus riches, sont sur les hauteurs. Les nouveaux arrivants, et forcément les plus pauvres, sont dans les bas-fonds. Et là, ils sont exposés. Ce sont les endroits les plus insalubres, menacés par les débordements du Tibre, qui est très capricieux, endroits toujours bourbeux, malodorants, malsains, vecteurs de maladies qui menacent les plus fragiles, surtout en été. Entre Capitole et Palatin, il y a le Vélabre, qui se prolonge pratiquement jusqu'au Forum et au Grand Cirque, au lieu de la prostitution romaine. Et entre Esquilin et Viminal, ces suburbes encore plus malfamés, à la prostitution encore plus misérable. Alors voici un plan simplifié. On voit le secteur du Vélabre en bas à gauche, le secteur du Subur en haut à droite, et en le Forum romain, on le voit. Ça n'est pas forcément très très fidèle. Alors voici une image d'une rue de Subur, extraite d'une bande dessinée. Je ne sais pas si c'était exactement comme ça, mais ça devait s'en approcher. Je n'entrerai pas dans le détail de certaines scènes. Alors, Vélabre et Subur sont évidemment deux quartiers malfamés et très chauds, aux ruelles étroites, sinueuses et aux impasses pentues dès qu'on commence à gravir les flancs des collines voisines sans aucun plan défini. C'est qu'après la prise de Rome et sa destruction par les Gaulois, c'est bien antérieur, en 390 avant Jésus-Christ, je vous le rappelle, rien n'a été organisé. Mais rien du tout. Camille s'étant opposé à une reconstruction en un lieu voisin, Veïs, donc chacun reconstruit comme il le peut, utilisant les matériaux qu'il trouve dans les ruines, si bien que c'est l'anarchie la plus complète. Tite-Live nous dit « Où il y avait un vide, on construisit. » Résultat, véritable chaos, chacun utilisant les matériaux de récupération, je vous l'ai dit. Alors je crois que j'ai une image. C'est Brennus qui est en train de régler son compte aux Romains. C'est la pesée. Il va sûrement ajouter son épée du mauvais côté pour que les Romains aient encore un petit peu plus à payer. Dès l'époque de Plaute, les populations, aux moyens limités, s'installent dans des immeubles à étages. Les insulaires, fragiles, promptes à s'écrouler. Ce fut le cas d'ailleurs en 60 avant Jésus-Christ, toujours, lors d'une violente tempête, ou même à prendre feu. C'est pour cela que le fond du Forum d'Auguste, plus tard, en sera séparé par un mur dont on dit qu'il avait plus de 30 mètres de haut, afin d'éviter évidemment la propagation des incendies. Alors ce voudrait être Tite-Live. Alors là, c'est une vision, je dirais, idyllique de l'insulae, d'une insula, je crois. Mais les aires sont quand même, je pense, respectées. Au rez-de-chaussée, les échoppes des commerçants ou artisans. Et puis, dans les étages supérieurs, les logements qui ont l'air, là, remarquablement installés.
dans les fêtes, ça devait être beaucoup plus misérable. Et il devait être également beaucoup plus haut, car faute de place, on construisait en montant. On ne pouvait pas s'étaler à l'intérieur de l'enceinte servienne que j'ai citée tout à l'heure, donc il fallait rajouter les étages, ce qui évidemment fragilisait la construction de base. Alors j'en étais aux incendies, et voilà une description que fait l'historien grec Dion Cassius d'un des grands incendies de Rome, peut-être celui dont on a dit que c'était Néron qui l'avait fait éclater. Un tumulte extraordinaire s'empara de la ville tout entière, et les gens couraient de ci de là comme des fous. Certains qui venaient en aide à leurs voisins apprenaient que leur propre maison était en train de brûler. D'autres, avant même d'avoir pu être avertis, apprenaient qu'ils avaient tout perdu. Ceux qui étaient à l'intérieur des bâtiments se précipitaient dans les rues étroites, en espérant pouvoir être à l'abri à l'extérieur, tandis que d'autres voulaient, au contraire, se réfugier dans les maisons. Enfants, hommes, femmes, vieillards, tous hurlaient en gémissaient. On ne pouvait rien voir ni entendre à cause de la fumée et des cris. Certains restaient sur place, muets et hébétés. Beaucoup de ceux qui transportaient leurs biens, ainsi que ceux qui avaient pillé les biens d'autrui, se précipitaient les uns sur les autres et dégringolaient sous leurs fardeaux. Impossible d'avancer. Impossible aussi de rester sur place, car les gens poussaient et étaient poussés, renversaient les autres et étaient renversés. Beaucoup étaient étouffés, piétinés. On assistait à tout ce qui se produit dans une telle catastrophe et il était impossible de s'échapper, car celui qui évitait un danger tombait immédiatement sur un autre et mourait. Alors voici une représentation du mur. C'est une partie du mur qui séparait le quartier de Subur du forum. Mais à l'origine, il devait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus élevé. Et là, c'est une représentation du grand incendie de Rome, par notre peintre français Hubert Robert, qui est mort, je crois, en 1808. Cicéron dira plus tard, Rome, posée sur des collines et dans des vallées encaissées, où les maisons montent en étage et semblent suspendues en l'air, sans rue convenable, avec seulement des ruelles très étroites. Dans cette complète anarchie, rien de surprenant à ce que la spéculation foncière ne se développe. Les prix flambent comme les immeubles, et les plus démunis trouvent encore moins à se loger. Aussi, les habitants des insulaires, si insalubres et dangereuses soient-elles, n'en sont-ils pas moins des privilégiés par rapport aux plus misérables qu'eux, qui vivent dans la rue, éternellement repoussés par les nouveaux arrivants, tous prisonniers, je vous l'ai dit, des remparts de la ville, l'enceinte servienne, dont les faubourgs ne se développeront que bien plus tard. Ni Subur, ni Vélabre, ni le quartier du Grand Cirque ne sont cependant uniquement des quartiers chauds. Dans un incroyable grouillement s'y côtoient petits artisans de toutes sortes, cordonniers, forgerons, lainiers et bien d'autres. Selon Suétone, César y aurait été élevé. Auparavant, Caius Gracchus y aurait emménagé pour montrer de façon spectaculaire son divorce d'avec la noblesse. Finalement, tout ce qui vit en marge de la société s'y retrouve dans une quasi-impunité, faute d'une véritable police. Ça n'est que sous l'Empire que des cohortes urbaines, des vigiles et des prétoriens seront levés pour assurer un service d'ordre indispensable. On a là voleurs, receleurs, revendeurs de tous acabits, trafiquants, esclaves fugitifs, et bien d'autres encore. En conséquence, rien de surprenant à ce que s'épanouisse la prostitution la plus basse. Il n'est pas rare que certains hommes mariés mettent aussi sur le trottoir épouses et filles, dont les charmes ne nous paraîtraient pas forcément très évidents. Plaute, toujours lui, nous le précise dans deux de ses œuvres. D'abord dans Penelus. Est-ce que tu veux te trouver au nombre de ces misérables prostituées, ces amis des garçons boulangers, ces déchets tout juste bons pour des vallées couverts de farine, ces filles faméliques, gluantes de mauvais parfums, répugnant plaisir de la lie des esclaves? Elles te sentent le fumier de leurs bouges, ou elles croupissent sur leurs tabourets. Jamais un homme libre n'a voulu y toucher, ni les conduire chez lui. Ces vieilles peaux que les plus puants des esclaves se procurent pour deux oboles. Il dit encore dans la cassette, « Ces filles d'ici, ces limaces blafardes, fiévreuses, pitoyables, des putains à deux oboles, de véritables squelettes puants le mauvais parfum, l'aident à faire peur avec leurs pieds déformés et leurs jambes comme des échalas. » Plus tard, Martial, dans le même registre, dira « Pendant que tu es chez toi, Galla, on s'occupe de ta parure dans la rue Subura, où l'on est en train de friser les cheveux qui supplée à ceux que tu n'as plus. Tu ôtes chaque soir tes dents comme ta robe. Tes attraits reposent dans 100 boîtes diverses. Et ton visage ne couche pas avec toi. Tu t'avises pourtant de m'agacer avec le sourcil qu'on t'apporte le matin. Et tu oses montrer sans rougir ces secrets appâts que les années on blanchit, et que tu peux déjà compter au nombre de tes aïeux. Quoi qu'il en soit, tu me promets monts et merveilles. Mais ma mantule fait la sourde oreille, et toute borgne qu'elle est, elle te voit. Et les lieux ne manquent pas pour rencontrer de tels gars-là, les vieilles Tuscus du Forum au Vélab et Turarius, vers Subur, autour du Grand Cirque, et du Ludus Magnus, centre d'entraînement des gladiateurs, près des temples de Vénus, Ginitrix, et où Dizis, que Juvénal appellera plus tard la déesse Macrène. Alors je crois avoir un Juvénal. Mais le summum, c'est le Summémium, la rue des putains, l'enfer de Rome, dont Fellini a donné une image saisissante dans son Satyricon. Si abominable soit-elle, cette prostitution sera presque considérée d'utilité publique et deviendra commerce lucratif pour l'État. Quand Caligula, empereur de 37 à 48 après Jésus-Christ, ayant promulgué alors un impôt équivalent au prix de la première passe du jour de chaque prostituée répertoriée dans un lupanar, maison d'abattage où elle exerce, dans une cellule ouvrant directement sur la rue, munie d'un lit maçonné, comme cette image nous le montre, et fermée d'un simple rideau. Alors, je ne sais plus qui c'est.
Caligula.
C'est Caligula, voilà. Et voici ce lieu que certains connaissent parce que c'est à Pompéi. C'est un lupanar de Pompéi. Donc, Caligula ayant institué cette loi, il n'y a pas de petit profit. Et puisqu'on parle argent, que pouvait bien coûter une fille à cette époque? Eh bien, l'inscription relevée sur une stèle élevé sur la tombe d'un aubergiste, nous le révèle. Les auberges étaient aussi des lieux de prostitution. Alors on lit ceci. « Aubergiste, faisons nos comptes. Tu as pris un setier de vin, du vin, un as. Du ragoût, deux as.
D'accord.
Pour la fille, huit as.
Ça va aussi.
Le foin pour le mulet, deux as. Ce mulet me ruinera. À titre indicatif, on estime qu'à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, un ouvrier qualifié pouvait gagner 12 as par jour. Alors peut-on dire que cette fille-là a de la chance? D'autres en ont, hélas, beaucoup moins. Et leur condition de vie est encore plus misérable. Il y a les ambulatrices. Leur nom se suffit à lui-même. Ou pire encore, les busturiers, celles des tombeaux qui œuvrent dans les cimetières, peut-être aussi dans le Trastevère, de l'autre côté du Tibre, un lieu encore plus misérable que Vélabre et Subur. Les adolescents de bonne famille, faute encore d'une fortune suffisante pour entretenir une courtisane, fréquente le lupanar à l'âge où ma toge blanche me permit d'aller à Subur, dit le poète persé. En effet, lorsqu'ils sont adolescents, les jeunes gens portent, comme c'est le cas à droite, une toge bordée de pourpre. Et c'est à l'âge de 16 ans qu'ils l'échangent pour une toge intégralement blanche. Les deux autres personnages qui sont en bleu ou en bleu et blanc, je ne sais pas à quoi ils correspondent, je vous prie de m'en excuser. Mais là, il y a des différences très intéressantes donc entre l'adolescent à droite, qui va quitter cette toge bordée de pourpre, et ensuite celui qui est considéré comme un adulte, entrant dans la vie active, vêtu de sa toge blanche. Ces jeunes, fortune assurée, habitent peut-être sur l'Aventin, dans les pentes, abrite prostituées et musiciennes de luxe, au standing fort différent de celle de Subur. Ce ne sont plus des prostituées, ce sont des courtisanes. Elles peuvent être louées à la journée, certes, mais aussi au mois, voire à l'année. On dirait régulièrement aujourd'hui des poules de luxe. Peut-être celles-ci seront-elles rejointes par quelques femmes mariées, délaissées ou veuves, venues compléter les revenus de leur ménage en se laissant séduire, parfois sous le regard complaisant de leur mari un peu trop avare. Mais gare pour elles, si elles sont dénoncées, c'est alors la déchéance. L'épouse modèle ne peut en aucun cas faire ce que la loi autorise au mari. Qui est-elle, cette épouse modèle? Elle est l'acmène de l'amphitryon de Plaute, qui dit n'avoir nul besoin de dot, car sa dot c'est, dit-elle, l'honneur sexuel, pudicitia, la pudeur, pudeur, la modération du désir, la crainte des dieux, l'amour de ses parents, la concorde avec sa famille, c'est être docile, généreuse envers les gens de bien, utile aux honnêtes gens. Et si en plus elle est moche, c'est parfait. Les femmes mariées n'ont pas d'attrait sexuel et ne doivent pas en avoir afin d'éviter tout scandale. Tel est le propos du vieux Démiphon dans Le Marchand de Plaute, bien entendu. Bref, cette épouse est la perfection. C'est ce que constate l'esclave sosie dans l'Amphitryon de Plaute. Quelques exemples infirment ces dires. Le plus célèbre étant évidemment celui de Messaline. Alors voilà une Messaline très sage, avec Britannicus dans les bras. Mais ses exploits furent décrits par Juvénal en long et en large. Elle, la femme de l'empereur Claude le jour, et la putain Lysiska la nuit. Le monde des professionnels du sexe compte aussi des hommes, destinés au plaisir d'autres hommes. C'est autorisé dans certaines limites, dit l'esclave Paninure dans le Charançon. Pourvu que tu t'abstiennes de femmes mariées, de veuves, de vierges, de jeunes hommes et d'enfants de conditions libres, aime tout ce qui te plaît. Rien n'empêche donc un citoyen d'avoir son esclave favori, le Pueri Delicati, petit garçon de plaisir, tel que le définit Plutarque. Je crois avoir un Plutarque un peu abîmé. Et ce Pueri Delicati sert évidemment de jouet à son maître. Et le jouet peut être de tous ordres, c'est évidemment d'abord au caractère sexuel qu'on pense. Et une image du Satyricon de Fellini nous le montre. Je ne sais plus, mais est-ce que ça n'est pas Richard Burton?
Non,
ça n'est pas lui l'acteur. Non, mais je fais erreur, sans doute. Il était plus beau. J'ai pas fréquenté. Alors, quant à la femme libre, elle ne pourra en aucun cas faire usage de prostituées mâles. Sauf à prendre beaucoup de risques et à être extrêmement discrète. Il arrive cependant que certaines riches matrones paient pour entrer dans les coulisses des théâtres ou des cirques, pour caresser tel mime ou musicien ou encore gladiateur au physique avantageux. S'encanailler de la sorte semble exciter certaines grandes dames en mal de volupté. Ma maîtresse, dit un esclave du Satyricon de Pétrone, voilà un Pétrone, ma maîtresse va chercher de quoi faire l'amour dans la lie de la plèbe. Juvénal, encore plus tard, nous conte les aventures de l'épouse d'un sénateur. Et voilà ce qu'il nous dit. Marié à un sénateur, Eppia a suivi une équipe de gladiateurs jusqu'à l'île de Pharos, le Nil, les remparts malfamés d'Alexandrie. Eppia, la scandaleuse. Sans frémir, elle a affronté successivement l'Adriatique, les flots bruyants de la mer Ionienne. S'il fallait courir ces dangers pour un motif honorable, elle tremblerait, elle serait glacée d'effroi, elle sentirait ses jambes tremblantes se dérober sous elle. Mais l'impudeur donne du courage. Si c'est le mari qui le demande, il est pénible de s'embarquer. Le bateau sent mauvais. On a le mal de mer. Mais si l'on suit son amant, plus question d'avoir le cœur fragile. Un mari, on vomit dessus. Un amant, on mange avec lui au milieu des marins. On se promène jusqu'à la poupe avec lui. On s'amuse avec lui à dérouler des cordages grossiers. Pour qui Eppia s'est-elle enflammée de la sorte? Quel est le jeune homme qui l'a séduite? Qui a-t-elle admiré au point de supporter d'être surnommée la gladiatrice? C'est petit Serge. Certes, il a déjà commencé à se raser. Ses bras sont couturés de cicatrices. Il approche de la retraite. De nombreuses balafres sur la figure. Une grosse bosse sur le nez, à l'endroit où le casque l'a meurtri. Un œil qui pleure en permanence. Mais c'est un gladiateur. Ce nom seul suffit à en faire un Adonis que l'on préfère à ses enfants, à sa patrie, à sa sœur, à son mari. C'est que les gladiateurs ont solide réputation. En voici quelques-uns. C'est une mosaïque qui a été trouvée en Libye, sur un site libyen. Alors on lit sur les murs de Pompéi, le rétière Crescens, médecin nocturne des poupées de la nuit et du matin. Ou bien encore, le rétière Céladus, l'idole des poupées. La rumeur publique les fait même parfois père de personnages illustres. Ainsi, quand Commode succède à son père officiel Marc Aurèle, on accuse sa mère Faustina de l'avoir conçu avec un gladiateur. Et voici Faustina représentée avec son gladiateur chéri. Ce sont évidemment des situations non sans danger. Et quand Domitia, la voici, la voilà, je n'ai pas résisté à vous la montrer tellement elle a une belle coiffure. Quand Domitia s'affiche avec le pantomime Paris, vedette du star system de l'époque, elle est évidemment répudiée par son mari, l'empereur Domitien, qui, en passant, condamne à mort le comédien. Ça n'est que justice, des puissants. Mais les misérables, eux, sont exposés à bien d'autres fléaux. Entassés pour certains dans les insulaires ou à la rue, ils sont les proies sans défense des catastrophes naturelles. Les annales relatent en effet nombre de tremblements de terre, de tempêtes ou de crues du Tibre qui inondent évidemment les parties les plus vulnérables de la ville. Dion Cassius, encore lui, dans son histoire romaine, décrit l'une de ces catastrophes. Il monta si haut, il s'agit du Tibre bien sûr, qu'il inonda les bas quartiers de la ville et submergea même des quartiers plus élevés. Les maisons qui étaient construites en briques furent imbibées d'eau et s'écroulèrent. Tous les animaux périrent dans les flots. Et les gens, qui n'avaient pas pris à temps refuge dans les hauteurs, furent pris soit dans leurs maisons, soit dans les rues, et périrent. D'où des séquelles inévitables. Famine, chômage, sans-abri, criminalité. Mais encore plus terribles sont les épidémies qui ravagent régulièrement la population romaine. Les pestes, auxquelles on ne peut donner encore de nom précis, ont des conséquences tragiques. C'est le constat que fait Tite Live, relatant une épidémie déjà vieille pour lui de quelques siècles. La saison était particulièrement malsaine, et ce fut une période d'épidémie en ville et dans les champs, aussi bien pour les hommes que pour le bétail. L'épidémie prit une grande force, parce que les paysans, craignant le pillage, se réfugièrent dans la ville avec leurs troupeaux. Promiscuité de créatures de toutes espèces, odeurs inhabituelles pour les citadins, entassement des campagnards dans des taudis. Et à tous ces tourments s'ajoutaient la canicule et les insomnies. En se soignant mutuellement, les gens répandaient la contagion. Forcément, toutes les couches de la société sont atteintes. Les survivants n'en sont que plus enclins à prendre du plaisir, mais aussi à faire un peu n'importe quoi. Rixes, meurtres, exactions en tout genre se multiplient, même au sein des familles patriciennes. Mais c'est au sein des plus démunis que l'on dénombre le plus de victimes. C'est encore Tite Live qui en fait état de cette manière. Une épidémie qui l'année précédente avait attaqué les bœufs, s'était porté sur les humains cette année-là. Ceux qui en étaient frappés dépassaient rarement le septième jour. Ceux qui s'en sortaient souffraient de malaises prolongés, principalement de la fièvre carte. Les esclaves en étaient surtout les victimes. Les rues étaient jonchées de leurs cadavres laissés sans sépulture. On n'arrivait même plus à enterrer les hommes libres. Les cadavres que ne touchaient ni les chiens ni les vautours, s'en allaient en décomposition. Il fut en effet prouvé que, ni cette année-là, ni la précédente, on ne vit de vautours alors qu'il y avait si grandes jonchées de bœufs et d'hommes. Et si ça n'était que cela, les maladies endémiques demeurent. La malaria, par exemple, qui affecte en permanence les habitants des bas quartiers, toujours marécageux. C'est pourquoi nobles et bourgeois ne manquent pas de quitter la ville chaque été, s'en allant qui dans la campagne voisine, qui au bord de la mer, pour échapper à la canicule estivale. Le système de l'impluvium, réceptacle des eaux de pluie, n'est pas étranger à l'extension de la maladie, tout comme les conditions d'hygiène déplorables, en dépit des efforts des Romains pour doter la ville d'un système d'égouts. Alors voici une image montrant l'impluvium. Par l'ouverture du toit, l'eau est reçue dans le réceptacle. Enfin, vous connaissez cela.
Mais le peu d'hygiène, en général, fait que les moustiques en particulier s'y développent, vecteurs évidemment des maladies tragiques de l'époque. L'été est donc la saison des convois funèbres, et les habitants les plus pauvres, plus que les autres, portent sur eux les stigmates des maladies chroniques. Il en va ainsi des petites prostituées de Subur, cachexiques, rongées par les fièvres, que Plaute a si bien décrites, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles sont aussi victimes des famines, autres fléaux de Rome. L'approvisionnement de la ville est en effet particulièrement difficile. Certes, les voies romaines contribuent-elles au transport des marchandises, mais c'est surtout par le Tibre qu'arrive la majorité des denrées. Or, il est des plus capricieux. Son niveau particulièrement bas l'été, son ensablement grandissant, interdisent l'arrivée des plus gros navires dans le port et seul la construction du nouveau port de Stie, sous le règne de Claude, améliorera le trafic de tout ce qui est nécessaire à l'alimentation des Romains. Voici une reconstitution moderne du port de Stie. Alors, le trafic maritime sera toujours forcément tributaire de la navigation en Méditerranée. Mauvais temps, naufrage, piraterie. Et l'arrivée du blé ne sera jamais très régulière. Arrivée du blé en provenance de Sicile, d'Afrique du Nord, voire même d'Égypte à une certaine époque. Et le problème est que sa répartition est fort peu équitable. Sont forcément privilégiés les citoyens les plus aisés. Les patrons, entre autres, et leurs clients qui leur demandent la sportule. Voilà qui nécessite quelques explications. Un client est un citoyen romain, originaire de la plèbe, qui se met sous la protection d'un patron, d'un patricien, fortuné forcément, et à la position sociale élevée. Il lui apporte son vote au moment des élections. En échange, il reçoit une protection juridique et la fameuse sportule. Qu'est-elle ? Eh bien, c'est un panier, en quelque sorte, contenant un repas donné quotidiennement. Formule qui sera remplacée plus tard par des sommes d'argent. Mais c'est là un système très pernicieux, puisque certains ne chercheront pas forcément à trouver quelque activité de ce soir et se contenteront de faire cette sorte de quête auprès de leur patron. Mais les autres habitants, qu'en est-il pour eux ? Qu'ils se débrouillent. Il n'y a évidemment pas de travail pour tous et en conséquence, pas à manger pour tous. La famine est telle en 440 avant Jésus-Christ, antérieurement à la vie de Plaute, qu'un nombre important de Romains préféreront mourir en se jetant dans le Tibre. Et quand celui-ci gèle, par un hiver particulièrement rigoureux, nul n'est épargné, et même le bétail périt faute de fourrage. Malgré tout, la population romaine ne cesse de croître dans l'espace exigu que l'on sait. Il en arrive de toutes parts, de toutes les régions de l'Italie actuelle, paysans qui ont abandonné leurs terres aux riches propriétaires qui les ont chassés. Paysans encore, dont les terres ont été ravagées par les guerres, guerre punique par exemple. Tous se glissent en fraude dans la ville. 12 000 sont repérés en 187 avant Jésus-Christ et renvoyés dans leur cité natale. Des enfants sont donnés comme esclaves à des Romains complaisants et forcément plus aisés qui s'engagent ensuite à les affranchir. Et ces affranchis, avec la liberté, obtiennent, c'est un gros avantage, automatiquement la citoyenneté romaine. Privilège
qui n'est pas le moindre en période de guerre, de conquête, qui donne également le droit de participer au partage du butin. Ces guerres provoquent aussi un afflux considérable d'esclaves. C'est ainsi qu'entre 200 et 150 avant Jésus-Christ, il arrivera 250 000 prisonniers de guerre, évidemment voués à l'esclavage. Plus tard, c'est 1 million de Gaulois qui subiront le même sort et qui arriveront. En quelques décennies, forcément, la surpopulation a des conséquences catastrophiques. Famine quasi endémique, oisiveté misérable et déracinée qui pose des problèmes économiques, sociaux et sécuritaires. Il y a peu d'exemples, même dans le monde moderne, de villes dont la population est gonflée aussi démesurément et aussi vite qu'à Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. On ne sait exactement combien Rome pouvait avoir d'habitants. En effet, seuls étaient recensés les citoyens en âge de porter les armes, à l'exclusion des femmes, des enfants, des esclaves, des étrangers. En fait, le plus grand nombre dans la ville. On s'accorde cependant sur une population d'à peu près 1 million d'âmes à l'intérieur de l'enceinte de Servius Tullius, l'enceinte servienne. Soit tout juste 320 hectares. Pour comparaison, Paris a une superficie de 10 540 hectares. Soit 33 fois plus. Et l'historien Paul Veyne estime la population de l'Italie romaine, toute l'Italie romaine, ce n'est pas seulement Rome, à 5 ou 6 millions d'habitants, avec en plus 1 à 2 millions d'esclaves. Ces chiffres sont évidemment sujets à caution. Aussi, tous les moyens sont bons pour se débarrasser du surplus de population. Ainsi, en 214 avant Jésus-Christ, une ambassade envoyée par les habitants de la ville sicilienne de Léontium vient réclamer à Rome des troupes pour protéger son territoire. Il est décrété que 4000 hommes lui seront dépêchés. D'autres mesures sont prises. En 95 avant Jésus-Christ, la loi Licinia Mutia fait expulser Italiens et Latins dont on ne veut plus. En 65 avant Jésus-Christ, on chasse un grand nombre d'étrangers. En 19, 27 et 49 après Jésus-Christ, c'est au tour des Juifs d'être déportés. Mais si loin sont-ils envoyés, qu'inexorablement, ils reviennent et la population toujours de croître. Pas étonnant alors que l'arrivée incontrôlée dans la ville de tous ces étrangers provoque chez les Romains des réactions d'ironie d'abord, de méfiance ensuite, de xénophobie enfin. Et le grec, j'en reviens à mon propos liminaire, devient pour les Romains de vieille souche l'ennemi. C'est là tout le propos de Plaude dans le Charançon. Ces espèces de grécaillons qui se promènent la tête encapuchonnée et s'avancent bourrés de livres et de paniers à sportules. Ils s'arrêtent au milieu de la rue, ils tiennent entre eux des conférences. Ces esclaves fugitifs bloquent le chemin et vous empêchent de passer pendant qu'ils avancent en tenant de beaux discours. On peut toujours les voir au cabaret lorsqu'ils ont pu voler quelques pièces de monnaie et après avoir bu du vin chaud, ils retournent chez eux, bien enveloppés dans leurs capuchons, en roulant de sombres pensées. Plaute évoque donc tout ce que les Grecs ont introduit dans la vie romaine. Leur goût du raffinement et de la vie facile, leur art de la parole, leur réputation d'intellectuels incapables de se promener sans leurs livres, autant de nouveautés pour ces lourdauds de Romains et autant de raisons pour eux de se méfier de ces beaux parleurs qui constituent ainsi un réel danger. Avec leur panier à sportules, je vous ai dit tout à l'heure ce dont il s'agissait, ils entrent en compétition avec les Romains auxquels ils disputent la faveur des riches patrons. Nous dirions ici en France qu'ils viennent manger le pain des Français. Ils sont les intrus menaçant la subsistance quotidienne du citoyen. Aussi, et je vais en terminer, la louve de Subur, flanquée de son Leno, le gladiateur devenu homme de main d'un politicien véreux ou l'esclave fugitif dissimulé dans l'arrière-salle enfumée d'une taverne crasseuse sont les personnages muets sans lesquels notre vision du monde antique serait incomplète. Peut-être est-il plus satisfaisant d'admirer les spéculations philosophiques de Lucrèce ou les édifices monumentaux de Rome. Cependant, l'éclat de la civilisation romaine masque trop souvent les réalités sordides sur lesquelles elle reposait. Dans le grouillement populaire des bas quartiers de Rome, nous trouvons un témoignage féroce sur les déséquilibres économiques inhérents aux sociétés antiques. Certes, les institutions démocratiques de Rome auraient dû prévenir ce déséquilibre. En fait, elles privilégiaient un groupe limité, les citoyens, dans lequel elles n'intégraient pas un nombre considérable d'individus. Impuissants à juguler la croissance démographique anarchique de la cité, incapables de donner des solutions satisfaisantes aux problèmes posés par l'habitat, les anciens n'ont jamais normalisé la population de la ville. Plus que la misère proprement dite, c'est le vide social qui nous semble être l'élément caractéristique de l'existence menée par ces milliers d'individus hors la société, hors la loi au sens strict du terme. Rien n'est prévu pour leur donner un statut. Ils n'ont de réalité dans la société organisée qu'à titre d'objets décoratifs ou utilitaires. Ils n'appartiennent à aucune classe, même populaire, puisque appartenir à une classe dans le monde antique assure un minimum de sécurité économique. Et nous suivons les révoltes de la plèbe romaine, rendue enragée par la misère. Mais si pauvres soient-ils, ces hommes sont des privilégiés dans la société antique, où leur place est prévue. Truands, escrocs ou prostituées sont loin d'être des catégories socio-professionnelles. Ils ne sont que l'écume des sociétés harmonieuses et bien organisées. Une écume de plus en plus envahissante qui aurait submergé le monde antique si celui-ci n'avait pu élever des barrières propres à cantonner la pègre, la misère, dans une sorte de no man's land. Ce vide social permet de comprendre les difficultés que rencontrent les historiens pour faire sortir de l'ombre ce peuple équivoque et pathétique de marginaux, de déshérités ou de canailles. Certes, les Romains, Plaute en particulier, et quelques autres, nous ont parlé des populations turbulentes de leur taudis, mais le pittoresque l'emporte inévitablement sur l'exactitude des faits. Comment en serait-il autrement, puisque les anciens ne se sont jamais vraiment intéressés aux problèmes moraux, aux questions d'hygiène physique ou morale posées par l'existence des bas-fonds de la cité? Ils ne seraient jamais venus à l'idée d'un écrivain romain de se livrer à une étude systématique du crime ou du plaisir dans la ville qu'il habitait. Issus de la violence, générateur de violence. Le plaisir dans l'Antiquité n'existe que grâce aux milliers d'individus misérables et exploités, végétant dans les bas quartiers de la ville. Plaisir et violence, richesse et misère constituent l'image contradictoire d'un monde où l'homme n'est exalté qu'au mépris d'autres hommes, vivant dans le désespoir absolu, en un monde en train de chanceler, où plaisir scandaleux, vie inimitable de la noblesse romaine, orgie, parodie, sacrilège, traduisent une conception pervertie de la civilisation sur sa fin. Ne lit-on pas cette inscription relevée sur le forum de Timgad en Algérie? Vénari, Lavari, Ludere, Ridere, hoc est vivere. Chassé, se baigner, jouer, rire, ça, c'est vivre. Il ne manque que faire la mort. Je vous remercie.
Bien, merci pour cette vision de la société romaine dont on parle assez peu. J'ai assez peu de souvenirs. On a rencontré ça un peu dans certains livres d'Alain Malissard. On a rencontré ça dans une fois, je me rappelle, Géraldine Leroy, donc, qui était adhérent à cette association, mais c'était pour Budet. Il avait parlé de Simone Veil, qui avait parlé de l'Antiquité, et on avait aussi une vision extrêmement éloignée de notre monde, je veux dire, par rapport aux différentes représentations sociales. Bien donc, c'est un peu sidérant quand même, c'est sonnant même. Est-ce qu'il y a quelques remarques ou questions sur cette intervention ? Nicole ? Latiniste.
Pas la peine. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est une remarque. Ce n'est pas. C'est que finalement, commencer par saint Augustin, c'était extrêmement pertinent parce que, à l'issue de votre conférence, on comprend mieux à quel point le christianisme, avec son message de fraternité, amour, égalité, a pu saper. Et peu à peu faire s'effondrer cette civilisation où tout un pan de la société avait été complètement méprisé. On comprend que le message christique, même s'il a mis du temps à s'imposer à Rome, a pu parler à des gens qui n'avaient rien, qui n'étaient rien, et à qui on rendait soudainement leur part d'humanité. Donc merci Daniel d'avoir permis cette confrontation implicite.
Je ne peux qu'approuver vos dires.
Autre remarque, question, Geneviève.
J'ai été frappée par le fait qu'il n'y avait pas de chômage chez les prostituées à ce temps-là. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était peut-être un avantage ou un inconvénient. Je n'en sais rien, mais elles avaient du travail.
On peut penser qu'à partir d'un certain état de délabrement, elles devaient quand même être au chômage. La clientèle devait se raréfier. Enfin, les pauvres, quelles qu'elles aient été, elles étaient bien mal loties.
Et alors, les écrivains que tu as cités, comme Claude, Dion Cassius, qui ont vraiment parlé de ça.
Dion Cassius, avec beaucoup, il a vécu. Je dois vous retrouver ça.
Alors, il y a Claude. Donc,
bien après, hein. Dion Cassius, il a vécu. Entre 155 et 235, après Jésus-Christ. Hein, donc, il avait un certain recul. Et il n'était pas romain, hein, il était grec.
Il était grec. Hein? Parce que toutes ces remarques en ont pu être faites que. Pas sur le cru, pas sur le vivre, comme ça, bien après, quand même.
Dans l'ensemble, oui.
Oui, c'est ça. Hein?
À l'époque qui nous intéresse, là, Plaute n'est pas le seul. À s'intéresser à tout cela, mais il est quand même l'intellectuel le plus important.
Oui, d'accord. Oh, c'est saisissant, merci.
Autre intervention ? Oui, Pierre.
Merci, Daniel. Tu nous as bien éclairé sur certains aspects de Rome. Personnellement, je ne suis pas latiniste, je connaissais très peu les auteurs que tu as cités, à part peut-être Pétrone. Quant à Plaute, j'ai un autre souvenir, mais il est peut-être personnel, Geneviève et à moi, c'est que il y a eu jusqu'à présent, parce que dernièrement, une compagnie romaine qui présentait des pièces de Plaute. Je pense qu'elle a dû cesser maintenant, la demande étant insuffisante sans doute, mais je n'ai qu'un souvenir de Plaute en tant qu'écrivain et de ses pièces, c'est que nous sommes allés un jour sur le Janicule, il y a un amphithéâtre qui paraît-il est maintenant hors d'usage et délabré, mal soigné. Et un petit amphithéâtre où cette compagnie de Plaute, présentant des pièces de Plaute dont elle se servait. Et j'ai un souvenir presque ému d'une pièce de Plaute qu'on a regardé, qui ne devait pas être du genre que tu citais, car nous avions pu y emmener le fils d'une dizaine d'années de nos amis, qui à ma foi fort rit, et nous aussi beaucoup. Donc Plot devait être très, très varié dans ses pièces.
Justement, pour corroborer ce que tu dis. L'Oluliard, il s'appelle la marmite qu'on étudie.
Mais c'est une pièce dont Molière s'est inspiré pour écrire l'avare, donc on n'avait pas du tout l'impression de... Bah, tu t'en souviens, ceux qui ont fait du latin. C'était une critique de l'avarisme, mais alors moi j'ai jamais senti toute cette... ce constat que tu fais et qui est remarquablement...
Dans leur ensemble, les comédies de Paul annoncent la Commedia dell'arte.
Voilà.
Et son nom même, hein, son prénom c'était, voilà tout son nom, hein, le nom romain, Titus Macius Plautus. Et ses prénoms, Titus Macius surtout, suggèrent précisément ce monde de la farce, puisque Macius semble dériver de joli, de Macus, appellation d'un personnage de l'Atellane. L'Atellane, c'est une forme de théâtre qui a précédé tout cela dans la Rome antique. Et c'était l'idiot du village. Alors, est-ce qu'il a pris ce prénom? Je ne sais pas. Mais ceci peut être une annonce faite comme son œuvre va prédire ce qui va arriver derrière.
Autre intervention? Non.
Ben merci.
Alors il nous reste à remercier Daniel pour cette intervention. Merci. Au revoir. Bonne soirée.